Alors, les micros étant ouverts, je vous propose que nous commencions cette rencontre. Moi, je sors d'un débat sur l'Algérie et je passe à la Grèce. Je trouve que c'est formidable, en restant au bord du lac Léman, de voyager autant. Et en tout cas, moi, je suis très heureuse de cette rencontre. Et je dois vous avouer que la première chose que j'avais envie de vous suggérer à tous les quatre, c'était peut-être de commenter ce titre qui m'a un tout petit peu intriguée. C'est pas une formulation que moi j'aurais adoptée. Je dois vous avouer, la Grèce est partout. Poésie virgule, la Grèce est partout. Est-ce que la Grèce est partout, c'est une façon de dissimuler le fait qu'on va parler de poésie, ou bien est-ce que c'est effectivement parce que aujourd'hui le sujet grec est incroyablement présent, mais pas pour des raisons poétiques. Donc voilà, j'avais envie de vous demander de commenter ce titre. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez commencer, François Deblu ?
Non.
Ben, quand même, il va falloir, hein, parce qu'il faut bien que quelqu'un commence. Il faut bien que quelqu'un commence.
Il paraît qu'on distingue les questions ouvertes des autres. Écoutez, moi je suis comme vous, hein, un peu surpris par ce titre. On m'a proposé à un moment donné de participer à une rencontre autour de la poésie grecque contemporaine. Et j'ai accepté immédiatement. Ça allait de soi. D'abord parce que je ne la connais pas bien, mal. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la poésie grecque contemporaine, mais le monde grec m'est très cher. Je dirai plus tard pourquoi, oui. Parce qu'il ne s'agit pas de parler de moi maintenant. Mais ensuite, j'ai vu que dans le programme, effectivement, on disait la Grèce est partout et que c'est un titre, je pense, un peu bidon, disons les choses comme elles sont. Parce que si on avait dit rencontre autour de la poésie grecque, le mot poésie ayant tendance à faire fuir le public, alors on l'a caché, mais vous voici pris au piège.
Et maintenant, vous ne sortez pas, hein ? C'est interdit.
Je suis ravi que vous soyez là, et je suis sûr que vous ne le regretterez pas, parce que, pour ma part, la rencontre que j'ai faite ces semaines dernières avec certains textes de la poésie grecque que j'ai lus pour la circonstance de ce soir m'ont enchanté, et donc je pense que vous pourrez participer à cette découverte. Moi, je serais plutôt un porte-parole qu'un critique, mais voilà, j'ai hâte que mes amis prennent la parole à leur tour.
Alors je vais leur donner tout de suite la parole, mais je voudrais en profiter d'abord pour vous présenter très rapidement François Deblu, pour dire que vous êtes bien sûr poète, écrivain, enseignant, et que vous avez publié des textes de prose, mais des brefs textes. J'en cite deux ou trois, Lieu commun en 79, Faux jour en 83, des textes un peu plus longs, Trouble fête en 89, mais donc avec une œuvre qui est essentiellement poétique. Et que votre dernier livre s'intitule « Lyrisme et dissonance », il est paru aux éditions Empreinte. Et maintenant, je passe la parole à Marie-Laure. C'est Coulmine ou Coulmain ?
Coulmain.
Coulmain, coup de sa fils, donc, pour vous demander, vous aussi, de réagir à ce titre « La Grèce est partout ».
Alors, si on met la poésie devant, « La Grèce est partout ». Parce qu'il y a quand même de nombreuses et profondes racines de toute la littérature contemporaine, contemporaine, de toute la littérature européenne, pas contemporaine, dans la Grèce, bien entendu, avec incontestablement le grand ancêtre et l'Iliade et l'Odyssée. C'est un peu la matrice qui s'inscrit elle-même dans une très longue tradition orale qui s'est poursuivie, qui s'est enrichie avec, dans une espèce de dialogue avec la tradition écrite, avec la littérature écrite. Voilà. Et à ce titre-là, ne serait-ce que dans le mot poésie, la Grèce est partout.
Alors, vous êtes, vous, traductrice, vous avez fait les choix et vous avez assuré les traductions des poèmes qui figurent dans l'anthologie « Ce que signifient les Ithaques, 20 poètes grecs contemporains », une anthologie qui est parue aux éditions Le Temps des Cerises. Même question à vous, Thanasis Hatzopoulos, comment réagissez-vous à ce titre de rencontre ?
L'idée que j'ai eue, c'était que l'idée grecque, c'est-à-dire Homère, les grandes tragédiennes, traverse toute la littérature depuis ce moment-là. Donc, il y a aussi les figures mythologiques qui traversent non seulement la poésie, mais aussi le théâtre et la prose. Et donc, je crois que la Grèce est partout à faire, surtout avec l'influence de la littérature grecque ancienne à la littérature qui s'écrit jusqu'à nos jours. C'est plutôt ça. Si on limite cette idée en ce qui concerne la littérature contemporaine, je ne crois pas que la littérature grecque moderne a cette influence. Au contraire, c'est plutôt inconnu et méconnu. Mais je crois que nous avons une occasion aujourd'hui pour en parler beaucoup.
Tout à fait, c'est ce que nous allons faire, nous allons nous y attacher. Donc je vous présente, vous êtes poète bien entendu, mais également traducteur, psychanalyste, vous vivez à Athènes. Vous avez publié une quinzaine de recueils de poésie, je voudrais en mentionner un qui a été traduit en français, qui s'intitule « Cellule », il est paru aux éditions du Chêne. Et puis vous avez également publié des essais, vous avez reçu le prestigieux prix Max Jacob il y a 2 ans, et vous êtes donc l'un des 20 poètes qui figurent dans l'anthologie « Ce que signifie les Ithaques », donc publié au temps des cerises. Alors c'est à vous, Colin Bottinelli, que revient le privilège de commenter en dernier lieu ce titre de notre rencontre.
Privilège, je ne suis pas complètement convaincu parce que je pense que je n'ai plus rien de très pertinent à dire maintenant. À part que je suis assez d'accord avec M. Hatzopoulos et je pense qu'effectivement la Grèce, partout, pour juste l'héritage de la Grèce antique et des civilisations antiques. Et donc oui, je suis assez d'accord avec le titre et j'imagine l'avoir compris.
Alors pour vous présenter, je vais emprunter des mots qui vous appartiennent. Étudiant en école d'art, je suis adepte de Sandrart et du haïku. J'aime la poésie et l'imagination. J'ai 20 ans et à ça se résume ma vie. Voilà, donc je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que votre recueil s'intitule « Les jours sont longs » et qu'il est publié aux éditions Torticoli et Frères. Voilà. La première question sera pour vous, après cette question en guise d'introduction, sera pour vous, Marie-Laure Coulemin-Koutsafis, parce que publier une anthologie bilingue de poésie en ces périodes plutôt troublées et compliquées pour la Grèce, on a tendance à l'interpréter, à le prendre comme un acte de solidarité vis-à-vis des auteurs. Peut-être une façon de dire que la parole poétique persiste, continue, qu'elle est toujours vivante.
Absolument, absolument. Mais c'est aussi un choix fait par l'éditeur qui est militant à ce titre. Et bien sûr, c'est très significatif. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre, en fait, tout à fait.
Vous l'avez perçu et vécu comment, Thanasis Hatzopoulos, lorsque vous avez su qu'on préparait cette anthologie de poésie consacrée aux poètes grecs contemporains? Vous lui avez donné une couleur un peu poétique, politique, à cette initiative?
Bon, écoutez, à mon avis, la politique, ce n'est pas seulement des actes littéralement politiques. Parce que je crois aussi que le fait de publier une anthologie de la poésie dans nos jours, c'est un acte politique, en dehors de la situation politique de la Grèce, parce que globalement, mondialement, la poésie se recule en ce qui concerne sa place dans la littérature mondiale. Donc la Grèce, qui a une poésie très riche, très abondante, avec des voix très différentes, très intéressantes en même temps, et avec son acte de la traduction premièrement, Marie-Laure a donné une parole à la poésie grecque contemporaine, parce que à l'exception de Titos Patrikios et je crois Skouroyans qui sont plus âgés, les autres sont bon, pas jeunes, mais ils sont des poètes qui sont vraiment connus à l'extérieur de la Grèce, même en Grèce ils sont très connus, et parce qu'en Grèce on peut dire que la poésie se lit beaucoup. Et contrairement à ce qui concerne à ce qui se passe en France ou je ne sais pas en Suisse, et donc je crois que en dehors de la politique de la condition politique de la Grèce, et cet acte est un acte politique. Place le fait que on peut parler de la Grèce pour d'autres raisons que des, pas seulement des raisons politiques, mais des raisons économiques. Et sans doute, dans ce qui se passe en Grèce, c'est l'économie qui est au début, au front. Mais derrière cela, il y a surtout une position politique de l'Europe, de la Grèce aussi. Mais je crois que parler de la poésie, on peut parler de d'autres situations qu'il y a en Grèce en même temps avec ce qu'on nomme la crise.
François de Blu, je voudrais me référer au texte d'ouverture à votre dernier recueil, donc Lyrisme et dissonance. Si je ne le trahis pas trop, c'est un texte qui dit qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas tenir pour menacer, voire condamner tout émerveillement et toute poésie en présence des dissonances du monde. Ce que vous exprimez là, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça peut être un certain écho avec la Grèce précisément.
Oui, inévitablement, mais avec un monde que nous connaissons un peu, mal, mais enfin nous avons des informations quotidiennes, qui est un monde qui va mal et qui est un monde de dissonance, qui est un monde de bruit et de fureur, qui est un monde de violence, et qu'on ne peut pas ignorer, me semble-t-il. Et le propos qui est au cœur de ces réflexions que j'ai rassemblées là dans Lyrisme et dissonance, c'est bien une interrogation sur ce que peut être la poésie ou une voix poétique qui suppose un minimum de confiance dans le monde, un minimum de confiance dans la possible beauté du monde. Alors comment est-ce que cet élan-là est compatible avec la conscience que par ailleurs nous avons, malheureuse, tragique, disons-le, des déchaînements du monde. Alors, la Grèce connaît ses épreuves aujourd'hui, pas tout à fait d'aujourd'hui d'ailleurs, et puis d'autres pays, vous le savez bien, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On pourrait se souvenir d'une question que le poète allemand Hölderlin posait, à quoi bon, disait-il, à quoi bon de la poésie ou des poètes, en des temps de détresse ? Alors, réfléchissant à cette question fameuse, je me disais, mais des temps de détresse, il y en a tout le temps. Ou alors, on fait l'autruche et on se cache la tête dans le sable. Mais, en somme, la question est permanente et constante pour nous. Et elle a des noms aujourd'hui et demain, elle en aura d'autres selon les lieux et les circonstances de l'histoire. Mais enfin, le catalogue des horreurs de l'histoire... il est inépuisable, hélas. Alors, bien sûr, la Grèce aujourd'hui, nous y sommes particulièrement sensibles et attentifs, et aussi parce que nous sommes les héritiers de cette longue tradition, de cette culture que vous avez évoquée tout à l'heure.
Cette confiance dans la beauté du monde, Colin Bottinelli, il me semble que c'est quelque chose qui est perceptible dans votre posture d'écriture. Vous iriez du côté de ce que vient de dire François de Blu.
Il a dit beaucoup de choses. Alors, oui, moi je trouve que je sais pas vraiment. Je pense que ça m'attriste un peu de devoir forcément rattacher la politique à la poésie ou penser qu'un recueil ou qu'un acte comme ça puisse être considéré comme de la politique. Je suis pas vraiment sûr de ce que je dis parce que je m'y connais pas assez dans ce domaine de la poésie grecque et de ce recueil. Mais moi, je suis assez confiant de la beauté du monde et des choses qu'il peut y avoir dans le monde. Et je pense que c'est important d'en être conscient et de ne pas forcément le rattacher toujours à des choses beaucoup plus humaines, comme la politique.
Je peux répondre ? Oui, bien sûr.
Je crois qu'il faut... Enfin, M. Hatzopoulos dira si je me trompe, mais ne pas prendre le mot politique dans un sens trop étroit.
Restreint.
C'est pas les partis politiques... la polis, le mot polis en grec ancien, c'est la cité. Et donc c'est un acte de vie dans la cité. Et à partir du moment où vous voyez, j'ai un poème que je vous lirai peut-être tout à l'heure d'un de ces poètes grecs de l'anthologie, Si je regarde un mendiant, enfin je le regarde pas, je le vois, et j'écris un poème sur le mendiant, c'est déjà un poème politique. Et si, je suis sûr que si je rouvre votre recueil que j'ai lu, très vite je peux dire, mais là nous sommes dans le monde, et dans le monde et avec des présences humaines et des drames et des beautés aussi. Donc il faut, à mon avis, prendre le... Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Alors, si vous voulez, je vais... Oui. Voilà. Je voudrais avoir la réaction de Marie-Laure et de Thanasis Hatzopoulos sur cette question-là, sur la façon dont la parole poétique peut englober du politique sans que, précisément, on en fasse une lecture trop étroite. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Au sens où la parole est forcément, devient forcément publique à un moment, bien sûr, c'est de la politique. Au sens ancien, où effectivement la participation à la vie de la cité était le contraire de l'idiotie. Donc, situer et permettre à chacun de se situer dans la vie publique, dans la vie par rapport aux autres, etc. À ce titre-là, oui, bien sûr, la poésie, toute poésie est politique, mais à un sens très large, bien sûr. Mais je comprends en même temps que par rapport à l'image qu'a désormais la politique, des gens de votre génération et une certaine réticence. On pourrait réinventer une politique qui soit basée sur la poétique.
Je vais te dire en arrière parce que je ne les vois pas, sinon merci.
je voudrais seulement ajouter, en continuant aussi avec Hölderlin, qu'il a dit que ce qui reste nous vient des poètes. Et pour dire que, par exemple, pour donner un exemple de ces derniers jours, et qui n'a pas à faire avec la poésie au sens littéral, mais la poésie en général. Peut-être vous avez vu au journaux cette photo de ce gendarme qui prend dans ses bras cet garçon de première enfance morte. Donc, c'est un acte d'art, c'est un acte politique en même temps, qui a bouleversé beaucoup de monde, bien que ce phénomène en Grèce est connu depuis 2 mois au moins. Et depuis des années, et qu'il y a des gens, des enfants, qui perdent leur vie dans la mer Égée à cause de la politique de l'Europe aussi. La politique en ce qui concerne les immigrants, mais aussi sa politique en dehors de l'Europe, c'est-à-dire les guerres, etc., etc. Donc, c'est un acte politique. Le photographe qui a fait ces photos, il est un poète qui a bouleversé l'opinion commune.
Peut-être.
Mais en même temps, parce que aussi c'était une photo qui était belle, hein? malgré son contenu tragique.
Malheureusement, mais, les photos tragiques peuvent
malheureusement,
être belles.
Malheureusement, mais c'est comme ça la vie, c'est la beauté, le drame et les tragédies ensemble. Tout est ensemble. C'est Rilke qui a dit que j'ai pris la beauté sur mes genoux et elle a été terrible.
Peut-être, Colin Bottinelli et François Deblu, serait-il intéressant que vous nous disiez de quelle nature est le lien qui vous rattache, parce que je crois que pour Marie-Laure et bien sûr pour Thanasis, c'est assez clair, mais le lien qui vous rattache à la Grèce, mais plus particulièrement à la poésie grecque.
J'aimerais juste répondre par rapport à ce dont on vient de parler. Il y a 2 choses selon moi. Je pense qu'avant, au début de la conversation, on a évoqué le rapport entre poétique et l'état de la Grèce actuelle. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'enlever de la politique. Et c'est... Je trouve que le mot politique, peu importe ses racines ou ce qu'il voulait dire avant, je pense que les termes évoluent et aussi leurs racines ne sont pas toujours cohérentes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand on utilise un terme politique, c'est plus pour se rattacher à la politique dure et pas à la vie de la cité. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Ensuite, bien sûr que la poésie, c'est la vie.
Ensuite, votre lien avec la Grèce et la poésie grecque.
Je suis pas sûr. J'ai un petit lien avec la Grèce. Quand j'ai fait mes études au gymnase, j'ai étudié le grec antique pendant quelques années, et j'ai toujours été intéressé par la culture grecque et par la culture de la Grèce antique. C'est mon lien.
François Deblu.
Oui, alors. Je suis ravi de penser qu'il y a encore des étudiants en grec ancien. Je crois que c'est une espèce en voie de disparition. J'en ai fait partie, j'ai eu cette chance, c'est mon premier lien à la Grèce, et c'est vrai que quand j'étais collégien et que j'étudiais le grec, j'avais une sorte de grand amour de cette langue qui est très belle. Il y a des langues qui sont plus belles que d'autres, plus musicales. Elles sonnent magnifiquement, et donc j'ai eu la chance de pouvoir un peu déchiffrer, comme un élève peut le faire, des textes aussi beaux que le début de l'Odyssée, ou, etc. Et puis, ça c'est un premier lien qui m'a conduit à me rendre en Grèce lorsque j'avais 18 ans, juste au lendemain de mon baccalauréat. Et ça a été un voyage qui a beaucoup compté dans ma vie. J'étais avec un ami qui venait de terminer comme moi. Et nous avons vagabondé pendant près de 2 mois en faisant de l'autostop, en couchant, en dormant à la Belle Étoile. Et le mot Belle Étoile avait tout son sens.
Il l'a encore.
Il l'a encore, bien sûr, bien sûr. Et puis, plus tard, j'ai écrit le livret d'une manifestation qui se fait dans ce pays tous les 25 ans ici, qui s'appelle la Fête des Vignerons. Et qui est un grand spectacle qui puise ses sources dans la mythologie grecque. Et donc j'ai eu à ce moment-là l'occasion de revenir à des sources comme le mythe de Dionysos, Bacchos, à celui de Cérès, Déméter, Orphée. J'ai introduit le mythe d'Orphée, j'y tenais beaucoup, puisque c'est le patron des poètes, Orphée. C'est lui qui invente la lyre et le lyrisme. Voilà, c'était une occasion de reprendre. J'avais déjà publié un autre récit, mais je ne vais pas vous raconter ma vie, dont un des personnages centraux est un personnage de la mythologie grecque qui m'avait beaucoup intéressé. Il est très peu connu, il s'appelle Momos, et c'est le dieu de la folie joyeuse. Et c'est un personnage insolent qui fait des remarques aux dieux de l'Olympe sur quelques défauts de la création et qui par conséquent se fait mettre à la porte de l'Olympe. Voilà, je m'étais donc intéressé à ça. Et puis, que vous dire, j'ai été très proche d'un écrivain que certains d'entre vous connaissent ici dans ce pays, qui était Georges Aldas. Et Aldas, on le sait, était d'origine grecque par son père. Et je retrouvais chez lui ce côté qui me touchait beaucoup, d'une passion pour la poésie, d'une passion pour la vie, qui m'a beaucoup éclairé. Enfin, je suis retourné en Grèce après beaucoup d'années. Il y a 2 ans, j'allais au mont Athos, parce que lorsque j'avais 18 ans, je n'y avais pas été admis, il fallait en avoir 20. Et là, je suis dans cette lumière d'Athos de façon très, très sensible. Je lis ces temps-ci des livres sur Athos, et donc des auteurs grecs aussi. Voilà, j'espère en écrire un peu, mais on verra. Voilà, mais enfin, ce lien existe, quoi.
Alors, bien sûr, la question de la beauté de la langue qu'a abordé à l'instant François de Blu, c'est un point assez récurrent lorsqu'on parle de la langue grecque. On souligne sa grande beauté. C'est une question qui, bien sûr, intéresse la traductrice que vous êtes. Comment vous définissez-vous cette langue à laquelle vous vous frottez en tentant, bien sûr, de la restituer dans une autre langue, en l'occurrence le français? Vous la percevez comment?
Il y a un moment où la perception n'est plus, mais comment essayer de la rendre plutôt? Je peux parler de la façon dont j'utilise en fait des images associées à chaque mot, c'est-à-dire en essayant de trouver des équivalences entre les images portées par tel mot en grec, essayer de trouver l'équivalent en français, voilà, tout simplement. Puisque beaucoup en poésie, le langage est beaucoup vécu finalement, ou transmission d'un vécu. Donc, voilà.
Et la beauté de la langue?
La beauté de la langue,
c'est difficile.
Elle est liée à beaucoup de choses. C'est un peu une matrice pour les langues européennes, en plus. Il y a tout ce côté. Donc, c'est sûr que c'est difficile, en fait. C'est très subjectif. Ouais, on ne peut pas parler. Je ne pense pas qu'on puisse parler objectivement de la beauté d'une langue au dépend des autres. Toute langue est belle si on entre dedans, si on la parle et si on sait communiquer avec. Donc c'est vrai que c'est une belle langue, mais voilà, parmi beaucoup de belles langues.
Mais c'est vrai que la poésie grecque est une matrice. Vous venez de réemployer ce terme que vous avez déjà employé tout à l'heure. Thanassis Sadopoulos, sur cette question-là, le fait que la poésie grecque soit une matrice, ça veut dire aussi que la poésie actuelle est adossée à une histoire considérable. Est-ce que parfois, cette histoire-là ne pèse pas aux auteurs contemporains ?
Bon, écoutez, en parlant de la beauté de la langue grecque, un côté de cette beauté est que dans la langue grecque contemporaine, on écoute plusieurs fois tous les niveaux de l'histoire de la langue grecque, depuis la langue ancienne, la langue byzantine, la langue de l'Église, etc. Il y a tous ces niveaux qui est très difficile à passer dans la traduction quand on ne cherche pas à trouver des mots du Moyen-Âge, etc., etc. Je dis cela parce que, par exemple, la langue de Cavafis, qui est très connue, les traductions, malheureusement, ne peuvent pas passer la langue de Cavafis, qui est et plein de mots et de syntaxes qui ont affaire avec l'hellénisme qui habitait hors de la Grèce au début du XXe siècle, donc de la diaspora, comme on dit. Donc, un côté de la langue grecque, c'est la beauté qui est la beauté historique. Donc, parce qu'il y a des phrases qui restent dans la langue depuis l'Antiquité, et qui, en même temps, c'est pas seulement une beauté, cela, mais cela rappelle des expériences du passé et rappelle aussi la relation qui nous est traversée à travers la langue avec ce passé-là. Donc, c'est en même temps un monde entier qui, bien qu'on écrit au XXe siècle, on rappelle, je ne sais pas, l'Antiquité, l'histoire de l'Église, l'histoire de l'orthodoxie, tout cela, ce sont enracinés dans la langue. Donc, c'est très difficile de passer tout cela dans la traduction. Malgré cela, Marie-Laure a fait un travail extraordinaire, hein, on peut le dire. Mais pas seulement elle, hein. Il y en a beaucoup maintenant qui traduisent de la langue grecque moderne et qui vraiment ont donné une très grande leur talent pour ce passage d'une langue à l'autre. Mais il y a aussi le profondeur de l'expérience qui s'est fait à travers la poésie et surtout en quelques mots, hein. C'est ça la poésie, la condensité. Parce que chaque mot a une histoire étymologique, une histoire, je ne sais pas quoi d'autre, qui s'est ressurgie à travers quelques vers. Hein. Au lieu de lire un roman, on peut lire quelques vers et c'est la même chose. Hein.
Mais ça donne une charge considérable.
Oui. Quelquefois, écoutez, un des grands problèmes de la Grèce, et c'est là que vous avez cité, que le passé est très lourd. Très lourd. Et quelquefois, la destructivité de la Grèce moderne a beaucoup à faire avec cela. Mais en même temps, je crois que la destructivité est l'autre côté de la créativité. Un peuple qui peut être créatif est un peuple qui doit être auparavant destructeur. Donc, la Grèce moderne a été construite sur le débris de l'Antiquité du Byzance. Le Byzance a été aussi une autre histoire, hein, ce n'est pas seulement l'Antiquité. Donc, tout cela, il donne. Bon, on voit des églises qui ont été construites avec des colonnes, avec des membres des temples antiques. Et aussi, on voit des maisons, pas contemporaines, mais jusqu'au 40, aux 50, aux années 50, qui étaient faits par des membres qui ont resté dans des chambres, etc. Donc, cela, d'un côté, donne un fond de création, et en même temps, il pèse très lourdement, parce que c'est comme des générations qui ne peuvent pas trouver leur place pour s'installer, parce que le passé est partout.
Est-ce que vous voulez peut-être prolonger ou...
Non, c'est vrai. C'est vrai que du coup, ça peut rendre certains auteurs un peu coincés dans la langue, effectivement, dans une espèce de dialogue avec les ancêtres qui les immobilise en quelque sorte, qui leur donne une langue un petit peu trop savante, on va dire. Ça, c'est un problème que je pense peuvent peut-être trouver aussi les Chinois. Ce dialogue avec les illustres ancêtres.
Oui, oui, c'est en même temps...
Et effectivement, il faut pouvoir le détruire.
Oui.
Parce qu'on est dans cette gang un peu...
Oui, ça peut être un enfermement.
Cette responsabilité, absolument.
Pour reprendre leur recherche, pas pour les évanouisses, mais pour les reprendre leurs recherches, pour les approprier.
Cette charge de l'histoire dans la langue, vous qui avez appris le grec, Colin, vous l'avez ressenti dans votre apprentissage? Ça vous est apparu comme étant une des caractéristiques de cette langue?
Pas du tout, parce que j'ai appris le grec ancien, alors je n'avais pas vraiment de recul avec la langue moderne grecque.
Ouais.
Désolé.
Et sur la question de la beauté dont on parlait tout à l'heure, la beauté de la langue grecque, vous y avez été sensible?
Bien sûr, je pense que c'est normal quand on commence à s'y attarder un peu et quand on commence à pouvoir déchiffrer, comme a dit M. Debluet, à pouvoir déchiffrer un peu les textes de l'origine et les textes classiques grecs comme Sappho et des choses comme ça.
François Debluet, sur la question de la charge du passé, là on est presque, c'est un peu une question qui est au cœur de l'écriture poétique, parce que tout poète écrit avec la mémoire de sa langue quand même, donc ça concerne tous les poètes, ça.
Oui, on est quand même plus riche d'avoir des racines que si on n'en avait pas. Et
si on n'en avait pas, on doit les inventer, les racines. Hein. Oui. Il y a des problèmes de tous les côtés.
Ou alors il y a
différents.
Pas de littérature.
Mais oui.
Dans les histoires d'héritage, n'est-ce pas, il y a toujours des conflits, mais au moins il y a quelque chose à hériter. Alors.
Oui, c'est vrai. Si on n'a pas cette chose à hériter, on doit l'inventer. Différemment, on ne peut pas le faire. On a inventé un passé parce que nous sommes des mortels, donc il faut nous orienter vers le futur et vers le passé. Donc il faut inventer même le passé si on n'a pas d'héritage.
Alors j'aimerais qu'on parle un peu de cette anthologie, de la façon dont vous avez procédé. Je crois que la poésie grecque quand même bénéficie en France, je ne sais pas ici, j'imagine en Suisse également, d'un certain prestige. C'est une poésie très, très, très reconnue. Voilà. Donc comment est-ce que vous avez fait pour organiser cette anthologie? Parce que les choix d'abord ne sont jamais simples. Donc voilà, quels ont été les critères?
Alors, des critères j'ai beaucoup d'amis poètes en plus, donc que je ne pouvais pas du tout tous mettre dedans. Beaucoup des affinités, mais avec un critère de base qui était un minimum de recueils publiés, assez important d'ailleurs, vu le nombre de parutions en Grèce en fait. C'est vrai que c'est un pays qui écrit encore beaucoup de poésie et qui en lit, où il en paraît beaucoup. Et l'aide de bons amis, bons poètes et bons anthologues eux-mêmes. Voilà, beaucoup de lectures et c'est ça. L'aide en particulier de Yologos Markopoulos, on va encore citer son nom, qui est un très bon poète présent dans l'anthologie, qui a une très très grande bibliothèque, qui l'a mise à ma disposition et qui m'a aidée dans le choix aussi. Donc quand j'avais besoin de quelqu'un, il m'a amené ses livres. Il faisait un premier choix dans lequel je faisais un choix aussi. Donc je lui rends hommage par les petites citations.
Thanassis Atsopoulos, peut-être ce serait intéressant d'avoir votre regard sur cette anthologie. Bon, vous êtes à l'intérieur, donc c'est jamais facile. Mais voilà, le choix, ces 20 poètes qui sont rassemblés là, selon vous, donne une sorte de paysage un peu, non pas complet parce que c'est impossible, mais enfin en tout cas un paysage assez qui reflète selon vous assez bien ce qui s'écrit en ce moment en Grèce.
Écoutez, oui, c'est vraiment, je peux dire, exemplaire. Les noms qui sont dans cette recueil, dans cette anthologie, ce sont des plus importants de la poésie grecque contemporaine. Vous pouvez faire aussi la comparaison avec le choix qu'il a fait Michel Volkovitz dans son anthologie à lui, qui est chez Gallimard, où il y a plusieurs noms qui sont dans les deux anthologies. Cela dit quelque chose. Hein? Cela dit que, bon, il y a des poètes qui sont dans le choix des deux traducteurs, et d'autres aussi. Parce qu'il y en a aussi deux ou autres anthologies, mais je crois que ces deux anthologies sont les plus importantes de la poésie grecque contemporaine. Mais je peux dire que, oui, il n'y a presque personne que je ne pouvais pas l'inclure dans l'anthologie. Sans doute, elle pouvait faire aussi deux ou trois volumes en plus.
Oui, ça c'est sûr.
Parce que 20 poètes ici, aussi, on pouvait aller jusqu'au nombre de 50, 60.
Ça serait devenu un volume assez considérable. Bon, il faut envisager un deuxième.
Je l'ai dit seulement pour souligner que c'est une anthologie. Sans doute, dans chaque anthologie, il y a un critère personnel, des affinités, comme elle a dit, parce que, comme elle est traductrice aussi, elle devait traduire des poèmes qui lui plaisaient, qu'il était plus possible pour elle, pour la traduction. Hein. Je l'ai dit, c'est là comme traducteur que je ne pouvais pas jamais faire un projet comme ça.
Non, il y a un problème en traduction, à mon avis, c'est qu'il est impossible, par exemple, de traduire honnêtement des poèmes en vers et en pied. Mon avis, c'est... on peut dire qu'on l'a traduit, mais ce n'est pas honnête. Donc, d'emblée, ça me coupait de beaucoup de gens.
D'accord. Peut-être Colin Bottinelli et François Deblus, serait-il intéressant de vous demander ce que vous avez ou découvert ou confirmé de votre connaissance de la poésie grecque contemporaine en consultant cette anthologie? Vous avez fait des découvertes?
Je n'ai fait que des découvertes, réalité, oui, parce que je connais un peu la génération précédente, mais les poètes qui sont ici, je n'en connaissais aucun. Et je dois dire que dans cette anthologie et dans le livre de Thanasis Hatzopoulos, parce qu'il y a un volume qui est paru donc, aux éditions Chêne, qui s'intitule Cellule, qui est un très beau livre, et bien j'avais tout à découvrir. Alors, dire ce que j'ai découvert comme ça, c'est pas très facile, je trouve, parce que, bon, en tout cas, disons, des voix de très belle qualité, c'est sûr, mais je suis condamné à la seule traduction. De temps en temps, je regarde un mot dans sa version originale, puisque l'intérêt, c'est qu'elle est, c'est une édition bilingue, les deux livres, celui de Thanasis Hatzopoulos aussi. Ce sont des voix très diverses, donc c'est difficile de donner, l'image d'un point commun, de ce qui ferait la caractéristique commune à d'aussi nombreux poètes. Mais il y a toujours une très grande qualité, une expérience. On voit que ce sont des voix chargées d'expérience. Et puis assez vite quand même, quand je les lis, j'oublie qu'ils sont grecs. Je vous avoue que j'oublie qu'ils sont grecs. C'est-à-dire que ce sont des poètes grecs que j'ai la chance de lire et de découvrir, mais il y a chez eux, ce qui fait qu'ils nous touchent et ils nous atteignent, c'est pas seulement leur origine, pas seulement le drapeau sous lequel ils écrivent ou la langue dans laquelle ils écrivent, mais c'est aussi l'expérience qui est universelle et qui nous rejoint. Et donc, il y a dans ces pages, je ferais mieux d'en lire deux ou trois plutôt que de vous faire des
c'est
théories
d'ailleurs.
C'est
ce que j'allais vous proposer, donc ça tombe bien.
Il y a dans ces pages, c'est un peu abstrait quand on en parle comme ça. Ce qui l'est moins, c'est évidemment d'aller voir tel ou tel autre poème, et on se rend compte que il y a la présence de la mort, il y a la présence de l'amour, bien sûr. Enfin, ces grands thèmes de la poésie de toujours. De la douleur, de l'émerveillement. Ce sont des expériences que l'on retrouve là, dans des regards différents, dans des regards nouveaux, bien sûr, mais qui rejoignent ce que nous pouvons éprouver. Sans cela, il n'y aurait pas de passerelle. Voilà.
Alors, j'allais précisément vous proposer, mais à tous, d'ailleurs, si vous le voulez bien, de choisir un poème et de le lire, mais peut-être d'abord demander à poser la même question à Colin, si vous avez eu le temps de regarder l'anthologie, si vous y avez fait des découvertes qui vous ont particulièrement marqué.
Alors, je vais vous avouer très vite que je n'avais pas connaissance de l'existence de cette anthologie avant de venir ici maintenant. Et donc, par contre, je peux qu'abonder dans le sens de Monsieur Deblu, et ce ne sera que des découvertes puisque je ne connais pas la poésie grecque moderne. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit à propos de la nationalité, en fait. Je pense que c'est pas si intéressant, dans le cadre d'une lecture directe, de considérer que ces poètes sont grecs, c'est juste des poètes. Avec toute la charge que ça peut avoir, mais...
Ils sont grecs et plus que grecs.
Et au-delà.
Ils sont juste grecs.
Grecs et au-delà.
La Grèce et l'humanisme sont liés vraiment. Donc y a, je peux vous donner, entre nous et en rigolant, mais en rigolant pas du tout, ma définition de l'esprit grec, c'est en fait les fesses des statues. Parce que peu de civilisations ont rendu avec autant de beauté et de simplicité et de fidélité quelque chose d'aussi commun que des fesses. Je suis désolée, mais c'est une preuve d'humanisme essentiel. Excuse-moi, Anassis. Tu vas plus me parler.
Anassis.
Pour moi, l'esprit grec tient dans les fesses.
Tient dans les fesses. C'est une belle définition, ça me plaît beaucoup.
Je vous encourage quand même à regarder les statues de dos et vous serez d'accord, je pense très vite.
Oui, non, c'est... C'est une définition que je trouve extrêmement intéressante. Est-ce que vous voulez bien nous lire ?
Les gens peuvent intervenir.
Oui, après on va, si vous voulez bien, on va écouter quand même un ou deux poèmes, si vous êtes d'accord. Et puis après, oui, bien sûr, vous pourrez poser des questions. Vous voulez bien tous lire ou vos propres poèmes, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de prendre dans l'autologie. C'est pas...
Alors ?
J'y ai fait allusion tout à l'heure, donc si vous permettez, je vais lire un poème qui s'intitule « Le mendiant », qui est de Dimitra Christodoulou. Et puis, j'aurais pu en lire beaucoup, mais peut-être que je lirai un ou deux poèmes de M. Hatzopoulos, puisqu'il est là, à moins qu'il préfère lire lui-même, je ne sais pas. Je lirai en français.
S'il vous plaît,
très bonne idée, très bonne idée. Alors voici en français le mendiant. Regarde-le, avec diplômes et moustaches de pierre. Il traîne 2-3 marmots affamés et se sent complètement inculte devant le vieux des jours, son créancier. Il lui pousse un chiot dans le ventre. Il le hait et a honte et a peur. Sa bouche en est béante, tant il peine à respirer. Il n'espère pas d'air pur. Toute sa pensée, un gribouillis du doigt. Sur son nom, son origine, ses kilos. Esquissé sur un billet, il passe directement à la Camarde. C'est la mort. Là-bas non plus, pas accepté. Il faut d'abord qu'il mendie le prix du passage.
Ah oui, Thanasis Hatzopoulos, si vous voulez bien nous lire un de vos poèmes en grec. À ce moment-là, François Deblu, vous acceptez de lire la traduction en français ?
Premièrement en français.
Très volontiers.
Vous préférez, sens-là, lequel alors ?
Comme vous voulez.
Non, mais...
C'est que vous voulez...
Dites.
Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais...
Dans Cellules, alors ?
Oui, dans Cellules, voilà. Mm-hmm. Aux éditions Chêne. Il y a un poème court que je trouve très beau, qui s'appelle « Ni messe, ni tombeau, ni trace ».
Oui, d'accord.
Et après, on en lira un autre, parce que c'est trop court.
Oui.
On commence par celui-ci.
C'est page 35.
Oui, oui.
Donc moi, si vous me dites dans un de mes recueils, je sais pas, je me perds. Vous voulez que je commence par le français?
Oui.
Ni messe, ni tombeau, ni trace. Nous avons longé la fosse, y jetant une poignée de terre. Ainsi les avons-nous ensevelis, sans les psaumes, sous la seule bénédiction de nos mains, leur jetant cette terre tirée de nos cœurs.
Οι άψαλτοι, οι άταφοι, οι χαμένοι. Περάσαμε πλάι από το σκάμα, ρίχνοντας μία χούφτα χώμα. Έτσι τους θάψαμε, δίχως ψαλμό. Μόνο με τούτη την ευχή που από τα χέρια μας τους ράντισε, με χώμα από την καρδιά μας.
Un autre, s'il vous plaît. Oui. Si vous voulez bien.
Oui, volontiers. Il y a parmi les poèmes que j'ai particulièrement appréciés, mais il y en a plusieurs, il y aurait Poteau.
Oui.
63. Non, je vous dis quand même. Non, 63.
Oui.
Poteau. L'homme ne fait que tourner sur le même axe, comme tournent les chiens sur leur chaîne, et plus ils enragent, plus elles s'enroulent à eux et compriment leur souffle. Haletant de leur propre fureur, les hommes vont tirant sans cesse autour du même poteau. Il définit un cercle centré sur l'axe de leur monde, l'air d'une prison, jusqu'au point de casser la respiration de sa chaîne, et libre alors, filé dans la nuit, tout en aboyant.
Stylos. Γυρίζουν οι άνθρωποι γύρω από το ίδιο, σαν τα σκυλιά γύρω από την αλυσίδα τους. Που όσο περισσότερο λυσούν, τόσο τυλίγεται και τους κοντένει την ανάσα. Ακόμη λαχανιάζοντας μέσα στη μάνιτα, δεμένοι πάντα γύρω από τον ίδιο στήλο. Κύκλο ορίζουν γύρω από τον άξονα του κόσμου τους. Κύκλο μιας φυλακής. Ώσπου να σπάσουν την ανάσα της αλύσου τους, και ελεύθεροι μέσα στη νύχτα να το σκάσουν, υλακίζοντας.
Merci beaucoup. On va peut-être laisser Marie-Laure lire un poème de son choix, je ne sais pas lequel.
Mais on peut lire encore de Fanny.
Mais après, on va y revenir, on en lira. C'est pour alterner un peu les voix.
Oui. Alors, ça s'appelle Lazaret. Lazaret est l'endroit où...
Quelle chance. Oui, je l'avais repéré.
L'endroit où on laissait mourir les lépreux. C'est pas... parce que j'étais le ciel bien-aimé, avec des miroitements de rosée dans les traînes de l'été, les pâturages grillés où l'âme dépasse l'inconnu, en pensant connues les figures qu'elle traverse. Solitaire, je descends là où la moisson est achevée et où les animaux ont dévoré l'ultime bourgeon de leur vie, là où je me prépare avec des pluies à habiter la nouvelle semence, là où les hommes viendront allumer litanies et prières et où les incendies donneront l'origine. Le matin, les âmes rosiront et l'endroit s'éclairera tout en rosé des reflets d'un sang obscur.
Λιμοκαθαρτήριο. Γιατί ήμουν ο προσφυλής ουρανός με αντανακλάσεις δροσιάς στα ύστερα του Αυγούστου φρυγμένα βοσκοτόπια, όπου η ψυχή προσπερνάει το άγνωστο, γνώριμες νομίζοντας ότι διασχίζει μορφές. Ερημικός κατεβαίνω εκεί που ο θερισμός τελείωσε και τα ζώα κατέφαγον τον έσχατο της ζωής τους βλαστό, εκεί όπου ετοιμάζομαι με βροχές να οικήσω το νέο σπόρο, εκεί που οι άνθρωποι θα έρθουν, λιτανίες και προσευχές να ανάψουν και οι πυρκαγιές θα δώσουν αρχή. Το πρωί οι ψυχές θα ροδίζουν και ο τόπος από ένος αίματος σκοτεινού τις αντάβγειες θα φωτίζει ολόδροσος.
Colin Bottinelli, est-ce que vous voulez enchaîner?
Plaisir.
Allez.
Je vais laisser une chance au hasard.
Formidable.
C'est pas complètement du hasard, sinon ce serait trop long. Celui-là, parfait. Alors c'est de, pardon pour la prononciation, hein, Yorgos Kronas, l'excursion. Et alors, ce n'est pas une raison pour annuler l'excursion. Et puis même s'il n'y a qu'un supporteur, nous, venant d'ailleurs sans travail, nous pouvons exclure ceux qui dans d'autres clubs passent la nuit. Et qu'est-ce que vous croyez? Nous on ne voit pas les gymnases à l'abandon, les notables dans les cafés et des étrangers dans nos champs. J'invite les supporters à nous suivre, les vagues ne nous font pas peur. Les nationalistes sont bêtes, que les bus restent immobiles, la rive nous la traverserons à pied.
Un dernier tout petit poème, François et Tana.
Volontiers, oui.
Allez.
Oui, oui. C'est un poème qui évoque la mort. Alors j'ai moi-même essayé de travailler sur ce thème, si je peux dire, parce que ça paraît très académique comme ça, dans un recueil qui s'appelle « De la mort prochaine », que j'ai publié il y a quelques années. Et bien sûr, je m'étais assez vite rendu compte qu'il n'était pas possible de se concentrer sur un thème comme celui-ci sans avoir une intense présence de la vie. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. On ne peut pas penser la patience sans penser l'impatience. Alors c'est la même chose. Et je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi ce poème-là m'a particulièrement touché. Il s'intitule « Présence de l'absent ». Il manque même aux ombres errantes, il manque même aux montagnes et même aux ruines. Personne n'évoqua jamais son nom. Sa mort seule l'approcha aussi, aussi près que possible des vivants. Lui qui, de son vivant, se tenait au plus près des morts.
Η παρουσία του απόντος λείπει και από τις σκιές ακόμη, λείπει και από τα όρη και από τα ρημάδια. Δεν τον ανέφερε κανείς, μόνο ο θάνατός του τον έφερε όσο κοντά γινότανε στους ζωντανούς. Εκείνον που όσο ήταν ζωντανός, βρισκόταν όσο γινότανε εγκύτερα στους πεθαμένους.
Merci beaucoup. On resterait bien des heures à vous écouter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très impatientes de poser des questions dans la salle. Vous voyez déjà, ça y est, il y a déjà une main qui est levée. Donc voilà, on va quand même donner la possibilité au public de vous questionner. C'est madame là.
Merci. J'étais très intéressée, Marie-Laure, parce que vous avez dit de la traduction que vous essayez de chercher... chez vous, dans le grec, un mot qui résonne et de trouver l'équivalent en français. Est-ce que vous pourriez donner un exemple, s'il vous plaît? Un exemple de cette atmosphère que vous essayez de traduire dans une atmosphère analogue dans l'autre langue?
Atmosphère, il faudrait que je réfléchisse, mais par exemple, il y a un mot en grec qui veut dire deux choses en français, qui veut dire écouter et entendre, et qu'on pourrait traduire par « il n'entend pas », mais c'était en fait « il n'écoute pas ». il est différent de ne pas entendre et de ne pas écouter. Voilà. Mais ça, c'est lié je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais c'est lié à une expérience, en fait, de mère. Et d'un coup, je répète des mots. Ce qui veut dire « tu n'écoutes pas », enfin « tu m'écoutes pas », alors que ça pourrait aussi bien être « tu ne m'entends pas ». Donc c'est lié à un vécu, c'est ce que je redis. C'est un vécu, et ces mots qui portent leurs images, portent leur vécu, il est important de les choisir exactement, plutôt dans la langue source, en rapport avec la langue finale, par rapport à la langue source. Voilà. Mais après, ça peut être aussi des mots qui ont rapport, justement, qui s'inscrivent dans l'histoire, donc qui portent un contenu religieux, ou un contenu philosophique équivalent, ou... atmosphérique, des fois, je veux dire, le temps, enfin, c'est le traducteur ou les traducteurs seront d'accord, je pense, sur cette notion. Il vaut mieux être à côté un tout petit peu, mais porter la même signification d'ensemble.
Oui, j'aimerais revenir sur le terme de poésie, en fait, et revenir aussi sur la boutade de Monsieur Debu sur au début. Vous avez dit, oui, si on parle que de poésie, il n'y aura plus personne. Justement, sur ce que Monsieur Hatzopoulos a dit de la poésie grecque, qui m'a interpellée, que encore aujourd'hui, en Grèce, on lisait beaucoup, beaucoup de poésie. Enfin, plus, apparemment, que... dans le reste de l'Europe, peut-être, oui, ou en tout cas en Suisse. En tout cas en Suisse.
Non, et de tous les restes de l'Europe.
De tout le reste de l'Europe, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et justement, vous avez signalé que c'était peut-être... Enfin, c'était sûrement dû à l'aspect culturel des choses. Enfin, c'est une option, vraisemblablement. Oui. Mais enfin, ma question serait, mais pourquoi la poésie a disparu? Pourquoi ça fait fuir à l'heure actuelle? Est-ce que c'est justement c'est à mettre dans un contexte culturel?
Moi, je pense qu'il y a. Si vous permettez que je réponde sur ce sujet-là, je ne pense pas que ça fasse fuir. Je pense qu'il faut se réapproprier la poésie avec des fêtes du genre. En France, il y a quelque chose qui s'appelle le printemps des poètes, qui réintroduit la poésie dans des lieux de vie communs où on se fait dire des petits poèmes. Le problème de la poésie telle qu'elle est ressentie par exemple les gens qui passaient devant le stand de la poésie où c'est que c'est très lié à une espèce de poésie très figée de l'école qui est souvent d'un ou deux siècles avant et qui casse les pieds. Enfin, ça a un peu changé dans les programmes, mais pas tant que ça. On va demander aux plus jeunes là. Et donc on n'a pas l'impression que c'est écrit par des gens vivants. On n'a pas l'impression. Mais oui, c'est vrai. C'est un vrai. Alors qu'il n'y a pas plus vivant que la poésie. Je veux dire. Y compris, c'est effectivement en quelques mots, ça peut être aussi puissant, aussi violent, aussi retournant qu'une théorie philosophique. Je veux dire, on peut dire que la poésie est un genre de philosophie en raccourci et avec du sentiment.
Peut-être aussi lié à une façon de dire la poésie qui a été pendant très longtemps très emphatique.
Oui, sans doute, mais si.
Et qui a peut-être pu rebuter des oreilles.
Quand les gens réfléchissent, ils aiment la poésie parce qu'ils chantent des chansons et la poésie. Enfin. C'est ça, quoi.
Et vous ?
Non, allez-y.
Bon, moi, je crois que les dernières années, la poésie regagne son réalité à cause de la lecture. Et je trouve cela vraiment important parce qu'on a passé à travers une vingtaine, trentaine d'années vers la fin du XXe siècle, des années 70, 20, 80, etc., où il n'y avait aucune lecture, la poésie a été tue de quelque façon, et cela a poussé la poésie vers une hors de la société, parce que la poésie n'est pas seulement pour être lue, mais pour être entendue, pour qu'on l'écoute. C'est différent. Et aussi, cette oralité, c'est l'oralité qui revient aussi à travers les chants. Et en Grèce, je crois qu'on a gardé toute cette culture du chant, qui, malgré des niveaux différents, malgré des qualités différentes, ça continue à travers tous ces ans, après la Deuxième Guerre mondiale et avant, mais après, ça continue.
François Deblu et Colin Bottinelli, vous pouvez peut-être compléter ces deux réponses.
Oui, je dirais que la poésie n'a pas disparu, n'est-ce pas? Non. Oui, oui.
C'est aussi le commerce. Hein. Ce sont des raisons économiques une fois en plus.
C'est une immense minorité, disait Octavio Paz. C'est une formule que je trouve extraordinaire parce que ça a l'air d'être une plaisanterie, mais elle dit qu'il y a un foyer. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'en France ou dans le domaine francophone, mais surtout en France, et nous avons eu la chance sous ce rapport, je dirais en Suisse romande ou en Suisse française où nous sommes, de ne pas être victimes du même phénomène, il y a eu des période d'obscurité, d'hermétisme, d'élitisme, d'acrobatie extraordinaire qui font que les poètes avaient une responsabilité, eux, je pense, dans cette coupure avec les lecteurs et avec ceux qui pouvaient être attentifs ou sensibles à la poésie. Alors, je trouve qu'il est... Il est urgent, mais il est aussi difficile et dangereux parfois d'être simple. Mais pour ma part, j'y travaille. C'est parce que quand vous êtes simple, alors vous risquez d'être compris. Et si vous risquez d'être compris, alors il faut avoir quelque chose à dire. Voilà.
Et on revient à la politique. Oui, on revient à la politique.
Mais c'est ça le problème de la littérature moderne, contemporaine.
Tout à fait.
On dit souvent que la littérature, comment dire quelque chose. Mais pour dire quelque chose, comment le dire, il faut avoir quelque chose à dire.
Oui.
Si on n'a pas quelque chose à dire, on ne trouve pas comment le dire. Mm-hmm. Mais on doit avoir quelque chose à dire.
Mm-hmm. Colin, qui est privé de micro.
Alors c'est drôle parce que je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que je suis pas sûr que ce soit vraiment important ou si difficile que ça d'avoir quelque chose à dire. Et j'ai toujours, ça sonne toujours un peu réducteur à mes oreilles. Je pense qu'on peut écrire sans quelque chose à dire, et Et voilà. C'est très très simple. Je peux revenir à la question de base, comme ça je peux un peu compléter ce que je veux dire. Effectivement, la poésie est un peu moins lue aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Marie-Laure. Je pense que c'est à cause de l'éducation et de l'école et de la culture. Je me souviens de mes cours de français en école obligatoire où on apprenait et on ne lisait que de la poésie médiévale ou les poètes de la Pléiade, des choses comme ça. Et c'est un peu rugue comme ça quand on est enfant. Alors je pense que c'est une des raisons principales.
C'en est une, oui. Oui, monsieur.
Oui, ça sera peut-être pas une question, mais deux, trois remarques sur ce recueil pour quand même inciter à le lire, parce que c'est un recueil tout à fait remarquable que j'ai découvert il y a un peu plus d'une année dans une librairie en France, le recueil Les Ithaques. Celui-ci, là, d'une part, une remarque générale, c'est que ces 20 auteurs sont tous, à leur manière, extrêmement substantiels, ont tous leur monde, ce qui donne à la fois est très rigoureux, ce qui donne un effet d'éventail très large, et en même temps, pas seulement un éventail, mais en transparence, je pense, une sorte de radiographie de ce que peut être la poésie grecque aujourd'hui. Et deux autres remarques, à la fois, pratiquement chacun de ces auteurs parle pas seulement de ce qu'on appelle les thèmes, amour, mort, ces thèmes-là, mais on parle aussi beaucoup de l'équité sociale, de ces valeurs, éthiques, morales, dans une société donnée, parfois même dans une ville donnée, dans une architecture donnée, dans un quartier donné, ce qui donne une très grande densité à toutes ces voix. Et vraiment, c'est très impressionnant. Et la troisième remarque, c'est qu'à travers bien de ces poètes, bien qu'ils parlent du monde contemporain, qu'ils s'efforcent de parler du monde contemporain, il est difficile de ne pas sentir des résonances, non peut-être pas de l'Iliade ou de l'Odyssée, mais des distiques élégiaques. Et je crois que le dernier poème que vous avez lu, par exemple, m'a sidéré, parce que c'est... Donc, cette façon qu'on avait d'honorer les morts par deux vers, par exemple, ou trois vers, ou quatre vers, qui sont une école d'exigence et d'économie, c'est proprement bouleversant, sans aucun pathos. Et ça, dans les poèmes, parfois les plus contemporains, je retrouve ça. Donc il y a toute cette source aussi qui rejaillit. Voilà ce que je voulais dire.
Bah écoutez, formidable, c'est bien que vous ayez...
Vous venez d'entendre Gilles Silberstein, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas reconnu, qui est lui-même poète et écrivain, qui aimerait se cacher, mais c'est trop tard.
Une belle lecture de cette anthologie, en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Oui? Encore...
Ça m'a fait penser, quand vous parliez de politique, hein, lorsqu'on fait un poème sur le mendiant, il y a une portée politique. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette phrase de Kennedy qui disait que l'art n'est pas une forme de propagande, mais une forme de vérité.
Kennedy ?
Oui.
Non, c'est un politique.
C'était un poète, c'était un poète à son heure. En tout cas, quelqu'un qui, à mon avis, avait quand même compris. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il oppose, répétez-moi juste, la vérité.
Que l'art dans son ensemble, n'était pas une forme de propagande quand vous parliez de politique. Oui. Parce que dans la politique, il y a toujours, lorsqu'on parlait de politique, cette forme de propagande derrière. Mais que c'était une forme de vérité.
Alors, il y a des formes d'art qui sont militantes et qui donc veulent convaincre de quelque chose et qui sont porteuses d'un message dont le destinataire est prié de tenir compte. Donc, on peut pas l'exclure, la propagande. Mais ce qui est vrai, c'est que le travail poétique cherche d'abord, mais ça dépend, hein, il y a des familles de poètes, il y a des familles d'esprits, et on peut pas réduire la poésie à une chose unique. Mais je pense que dans le travail de la poésie, on cherche d'abord, effectivement, la justesse, de façon à ce que l'expression qui est la nôtre soit aussi adéquate que possible au monde ou à l'émotion qu'on cherche à exprimer. Et donc, en ce sens-là, c'est une exigence de vérité. Et je pense pas qu'il y ait de grande poésie sans exigence de vérité. Voilà.
Je voudrais ajouter, si possible, Il me semble néanmoins qu'il faut en revenir au sens original du mot politique. Et à ce titre, effectivement, c'est politique. Je veux dire, parler politique. Il faut essayer, je pense, on est de Grèce. Je suis française, mais je vis en Grèce depuis très longtemps. Il n'est plus possible de ne plus être politique. On est pris dans la politique. On va mourir à cause de la politique. Je veux dire, si on ne prend pas position d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en parlant ou ne parlant pas. Ne pas parler est aussi un acte politique. Il faut arrêter de laisser la politique aux hommes politiques. Je veux dire, c'est pas possible, on va tous crever. Je vous le dis très clairement.
Oui, monsieur.
Je peux juste vous poser une petite question entre-temps.
Bien sûr.
Pourquoi il faudrait en revenir aux racines des mots ?
Parce que c'est un mot grec et on en revient à la vie de la cité.
Mais non, mais vous avez dit il faut revenir là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas accepter que les mots
pas...
ont une certaine évolution et qu'ils peuvent changer de signification et qu'ils peuvent avoir un autre contexte.
Pour le coup, la politique a toujours le même sens, c'est la vie de la cité. Non, mais si, je veux dire, oui, c'est normal à 20 ans, mais on comprend très très vite.
C'est normal à 20 ans.
Merci.
Merci.
C'est pas étonnant à 20 ans, je veux dire, et en Suisse éventuellement. Mais si vous venez en Grèce, vous verrez que ceux qui se sont le plus engagés cette année étaient des gens de votre âge.
Mais
contrairement à ce qui se passait avant.
Non, mais peut-être.
Je veux dire, ils avaient le même point de vue que vous avant. Ils ont été rattrapés par la vie de la cité.
J'aimerais juste
ont été obligés de prendre une position par rapport à cette vie de la cité. Sans, je vous dis, en laissant la politique politicienne, comme on dit, avec beaucoup de redondance, aux hommes politiques, mais en s'emparant, nous, de la vie de la cité qui est la nôtre. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, je veux dire, c'est forcé. Il faut s'occuper de notre vie, de la manière dont nous vivons dans la cité. Si nous vivons en esclaves, si nous vivons en mendiant, si nous vivons en exploiteurs, si nous vivons en assassins, si nous vivons en aveugles par rapport à certaines choses, il faut absolument prendre une position.
Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr de voir le rapport avec ce dont nous parlions. Je pense qu'on peut quand même faire une espèce de séparation entre la vie de la cité et une vie personnelle et une vie différente. J'aimerais bien que vous m'éclairiez sur mon avis et sur mon point de vue. Parce que...
Alors, je reviens aux origines des mots. La vie personnelle, en grec ancien, on va revenir, mais vous connaissez, c'est l'idiotisme.
Okay,
c'est-à-dire que celui qui ne s'occupe pas de la vie de la cité est dans l'idiotisme. Voilà, est un idiote, idiotis, un idiot.
C'est d'où l'intérêt, effectivement, de revenir aux racines des mots.
Excusez-moi. À propos de ce que vous dites, effectivement, pourquoi pas la liberté et par rapport à l'étymologie d'affranchir, mais vous arrivez tout à fait à ce que Orwell disait dans la No Flag, oui, c'est non. Vous voyez, vous pouvez avoir un caractère ludique et jouissif, à émanciper un terme de sa signification, de sa racine. Mais vous arrivez très vite à des abus de totalitarisme aussi, tout simplement.
On va laisser monsieur poser sa question. Et puis... Oui, monsieur.
Moi, j'aimais sortir de la politique et pas les musiques. Je suis musicien, j'aimais parler à monsieur Hatzopoulos. Poser la question, si vous avez travaillé avec monsieur Tsenakis ou bien d'autres compositeurs, est-ce que vous avez eu une collaboration? Et à monsieur Deblu, je sais que vous avez eu une collaboration avec Jean Balissa.
Non. Ce n'est pas moi.
Ce n'était pas vous.
Non.
Vous avez écrit vos textes avant ou après la musique?
Alors,
voilà. Anne-Laure, je vais juste dire une chose, c'est qu'il y a une chose qui est, je pense, encore plus difficile, c'est de faire une traduction qui doit être chantée, donc qui doit trouver place dans la musique.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et pour moi, non, je n'avais pas eu de collaboration avec des musiciens, mais j'ai beaucoup écouté, entendu de la musique dans ma vie. Hein. J'ai beaucoup, le rythme pour moi, c'est quelque chose d'important. Et quand j'ai lu une traduction, la première chose qui m'intéresse, c'est le ton. Quel est le ton que j'écoute dans l'anglais ou le français que je connais? Et après, le sens. Mais c'est le ton qui me fait à me convaincre que la traduction est bien faite.
Sur cette question du lien.
J'ai une collaboration, mais avec un musicien contemporain qui a fait pas
Oui, oui, oui.
Il a mis quelques musiques en passant par la lecture seulement des poèmes.
Un dialogue.
Un dialogue entre la musique. C'était dernièrement, c'est là, j'ai totalement oublié. Mais je crois que la musique, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie, hein, pas seulement dans la poésie. Le rythme de la vie de chacun, la façon dont il se met en mouvement, etc. Il travaille, tout ça. Il pense aussi à faire beaucoup avec la musique, pour moi.
Alors, je vous propose, oui, bien sûr, qu'on finisse ce dernier tour de table autour du lien entre poésie et musique. Et ensuite, si vous voulez bien, Thanasis Hatzopoulos, pour finir, lire de nouveau un poème. Oui, merci beaucoup.
Alors, juste pour répondre à monsieur, d'abord j'aimerais rappeler hors de mon cas personnel que historiquement, la poésie, en tout cas à la Renaissance, c'est-à-dire au moment où la langue française est née, elle est extrêmement proche de la poésie. Pratiquement tous les poèmes de Ronsard ont des modèles qui peuvent être mis en musique immédiatement. Donc après, l'histoire a montré une sorte d'écart croissant entre la musique, c'est-à-dire, comme le disait M. Hatzopoulos, le rythme et la sonorité se sont éloignés, surtout au XXe siècle. Pour ce qui me concerne, j'ai eu la chance de travailler avec une dizaine de compositeurs au fil des années, avec Éric Gaudibert, avec Joost Meyer, etc., dans des circonstances variées, avec Jean-Luc Darmelet aussi. Mais alors, si je vous parlais de mon rapport à la musique, je suis fils de musicien, je suis fils d'un de vos collègues, donc je suis né dans un violon. Alors la musique, pour moi, elle est essentielle. J'en ai besoin autant que d'oxygène, je pense. Alors... bien sûr, mais dans la poésie, elle est particulièrement sensible. C'est un langage qui est le plus proche de la musique, si vous voulez, contrairement aux articles de journaux.
Mmh. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que Colin Bottinelli, vous voulez, sur cette question-là, compléter ?
Non, pas spécialement. Je
me sens sur le lien entre musique,
je me sens pas très légitime là-dessus.
Musique et poésie ?
S'il y a possibilité, j'aimerais bien répondre à ce qui a été dit avant, mais
oui, bien sûr, pas besoin, bien sûr, non, allez-y.
Ah, maintenant ?
Mmh. Okay. Oui, parce qu'après, c'est fini.
Alors, il y a plusieurs choses auxquelles j'aimerais répondre. Premièrement, à ce que monsieur a dit sur le fait que si on enlève la racine des mots, on peut vite arriver au totalitarisme. Je trouve que c'est un raccourci assez rapide et peut-être hasardeux. Je pense que j'essaye pas de tout détruire, de tout déconstruire. Je me dis juste qu'il y a une certaine contextualisation des mots et qu'elle peut changer selon l'époque, le sens des mots. Et je pense que si on reste bloqué avec les anciennes choses, on s'enferme aussi dans des idées et on peut s'enfermer dans une époque qui est ancienne.
Non, mais il faut
deuxième
pas...
chose. Non, mais je fais juste, j'ai une liste, alors je vais la faire comme ça, j'ai une espèce d'ordre. Deuxième chose, vous avez parlé d'un terme idiotisme ou je sais pas quoi, et vous avez dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la langue. Alors je considère pas que la langue soit égale à la vérité.
À
la vérité, pardon, je parle un peu vite. Alors dans ce sens-là, je vois pas pourquoi on devrait s'occuper de l'État. Et je pense pas que l'humain soit réduit à l'État, forcément. Et je pense qu'on est très bien tout seul aussi. J'ai jamais dit qu'il fallait pas le faire. En rapport avec ce que je viens de dire, je pense qu'il faut vraiment savoir dissocier certaines fois un peu l'art des idées. Et là, je peux en revenir au fait d'avoir besoin de pouvoir dire quelque chose. Je pense pas, dans ce sens-là, et avec la charge de pouvoir dire quelque chose, de ce que ça peut représenter, je pense pas qu'on a besoin de pouvoir dire quelque chose. Et je pense qu'on peut un peu dissocier les idées de l'art et de la poésie, en l'occurrence.
Bien, comme il y a un sujet lourd et qui pourrait être un sujet extrêmement polémique, extrêmement intéressant, hein, je ne dénigre pas l'intérêt de la chose, mais qu'on n'a pas le temps de l'ouvrir, je vous propose de finir par une lecture de poésie. Voilà.
Alors justement, on va lire le poème de Thanasis qui s'appelle...
Un poème, oh oui, et je vais dire deux mots seulement sur ce poème. C'est un poème qui a été publié en Grèce en 1991, donc il y a une trentaine d'années. Et presque, et a été écrit quand j'étais assez jeune. Mais malgré cela, je ne sais pas comment Marie-Laure l'a choisi, l'a trouvé. Et elle a choisi d'un livre qui a beaucoup d'autres choses, mais qui parle beaucoup de quelque chose qui traverse l'histoire des hommes dans des situations tout à fait différentes.
Actualité. Des hommes descendaient, leur sexe à découvert, dans de nouvelles hécatombes de silence. Des femmes, avec leur pudeur, régressant devant la peur, pénétraient là où la chair transpire à la pensée du feu. Les enfants, avec l'interrogation de la nudité que recouvrait la cendre, connurent l'inconciliable de la flamme avec la nature et de la monstruosité des croyants. Ils dînèrent, âme de fumée, pain et, au lieu de vin, du raisin.
Επίκαιρα, άνδρες εκατέβαιναν μακάλυπτο το φύλλο τους σε νέες εκατόμβες σιωπής. Γυναίκες, με την εδώνα υποχωρεί ενώπιον του φόβου, εισέρχονταν εκεί που η σάρκα υδρώνει στη σκέψη της φωτιάς. Παιδιά, με την απορία της γυμνότητας που εκάλυπτε η στάχτη, εγνώρισαν το ασύμβατο της φλόγας με τη φύση και από τη θηριωδία των πιστών εδείπνησαν ψυχές καπνού, ψωμί και αντίκρασί στα φύλλη.
Merci, merci infiniment, merci à vous quatre. Merci. Et je vous renvoie bien évidemment à la lecture des recueils, de l'anthologie et des recueils des uns et des autres. Bonne soirée à tous.